Bonjour, bienvenue dans Backline l'interview, l'interview musicale autrement.
J'ai la chance d'être bien entouré, d'être entouré par vraiment deux musiciens exceptionnels. Par exemple, l'EP, un truc qui me tenait à cœur, c'était de le masteriser tout en analogique.
Ouais.
C'est ce qui a été fait. Donc on se calait une répète tous les un mois et demi, deux mois, tu vois.
Ouais.
Et on bossait pendant...
Bonjour à tous, bienvenue dans Backline Interview. Je suis avec l'homme nouveau, Olivier de son prénom, qui a un projet rock. Donc Olivier, je vais te laisser un petit peu présenter ton projet pour que nos auditeurs comprennent de quoi on va parler.
Eh ben salut à tous. Je suis, Olivier, alias l'homme nouveau. Je propose un set chansons pop-rock, texte en français, parce que je suis une quiche en anglais. J'adore cette langue, mais je préfère rester sur ma langue maternelle pour pas froisser les oreilles des auditeurs. Et ça fait depuis 2020 que le projet existe, depuis septembre 2020. J'ai créé ce projet après la naissance de mon fils.
James,
exactement, ouais. Donc voilà, j'ai eu l'impression de renaître un peu avec lui, donc d'où aussi le nom, l'homme nouveau, tu vois, quelqu'un qui se régénère sans cesse et qui renaît à quelque chose de nouveau. J'ai commencé par faire quelques singles, puis je me suis dit, ça, il faut que j'en fasse un truc un peu plus sérieux. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai posé tout ça en home studio. Voilà, j'ai balancé quelques titres. J'ai envoyé ces titres pour du mixage, parce que pareil, je suis une quiche en mix, donc voilà. Et puis par la suite, j'ai posé de l'image dessus, des clips, et j'ai lancé officiellement le projet en 2020, septembre 2020.
Juste pour savoir, ce que je trouve, c'est un projet qui est quand même bien abouti, qui sonne pro, on va le dire. Hein. Qu'est-ce que tu faisais avant? Tu as eu d'autres groupes avant celui-là? Tu as eu d'autres expériences musicales?
J'ai deux groupes plus jeunes, donc il y a maintenant très longtemps. Parce que j'ai commencé la musique, j'avais 10 ans, donc j'en ai 38 aujourd'hui. Donc voilà, je suis passé par plusieurs phases. J'ai eu plusieurs groupes, dont un, Six Pieds sur Terre à Chambéry. Donc on a pas mal tourné, on a fait un album, etc. Et puis après, le groupe a malheureusement splitté. Donc j'ai lancé un premier album solo par la suite. C'était en 2014. Et après, je suis passé par d'autres formes d'art, d'autres formes d'expression, notamment l'écriture, beaucoup, avec pas mal de recueils de poésie, dont un, Lettre T, a été récompensé. J'ai été lauréat du Salon des Poètes de Lyon 2013.
D'accord.
C'était super cool. Donc j'ai continué d'écrire beaucoup. Après, je me suis intéressé à la réalisation, à l'écriture scénario et à la réalisation de courts-métrages, parce que ça a toujours été une envie... Un truc qui me parlait beaucoup. Je suis pas très cinéphile, et, étrangement, mais j'aime produire. En tout cas, j'aime réaliser les choses. J'aime sortir une idée, un scénario de ma tête, quoi.
Ouais.
Et la mettre en forme. Donc voilà, j'aime être derrière une caméra. C'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans à peu près dans un collectif de courts-métrages. Et après, je suis revenu à mes premières amours, la musique, l'écriture de chansons, tout simplement. Donc c'était en 2018-2019, j'ai commencé à repotasser, prendre ma guitare et commencer à réécrire des choses, quoi.
Ouais.
Et après tout ce temps, ça a été un peu dur au début de remettre un peu la mécanique en route, mais c'était cool. Et puis du coup, par la suite, je me suis dit que je pouvais en faire peut-être un truc. Donc j'ai lancé le projet L'Homme Nouveau.
Ok, on sent au niveau de l'image de l'homme nouveau, moi je trouve, on sent que c'est travaillé, on sent qu'il y a un visuel. C'est-à-dire pour chaque morceau, tu as un graphisme, c'est une pochette d'album qui est chouette, tu sors un clip. J'ai l'impression en fait que tu es un artiste un peu avec un grand O, je dis pas ça pour te lancer des fleurs, mais tu as touché l'image, tu as écrit des livres, donc tu as touché les mots, tu fais de la musique et on sent que ton univers c'est quelque chose de complet. C'est-à-dire que des fois il y a des groupes, on sent que c'est des musiciens. Ils font leur musique, ils aiment ça, mais à côté, tout ce qui va être l'image, la com, etc., on sent qu'ils ne maîtrisent pas forcément aussi bien que la musique. Et toi, on a vraiment... enfin, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un tout. C'est-à-dire, quand je t'ai découvert sur Internet, sur ton site, sur les vidéos que tu as fait, je me suis même demandé, je dis, c'est qui cet homme? On a l'impression que c'est vraiment une entité. J'ai l'impression que tu vis l'homme nouveau. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tu es dans la vie comme ça, quoi, tu vois.
Ah bah, je suis hyper actif, ouais. Oui, encore, ça va mieux, je me soigne, comme on dit. Mais j'aime bien explorer plusieurs choses, en fait, simplement. Donc après, l'image, c'est toujours un truc qui m'a plu. Après, j'ai la chance d'être marié à une femme qui est très créative aussi.
Ouais.
Et qui gère beaucoup plus, que ce soit Photoshop ou quoi, tu vois, pour les pochettes. Et qui m'aide beaucoup là-dessus, et je la remercie d'ailleurs. Parce que Photoshop, ça, c'est un truc que j'y arrive pas, en fait. Je me suis jamais plongé dessus. Mais donc on fait les pochettes à deux avec ma femme, tu vois. Donc un grand merci à elle. Mais après, tout ce qui est image, oui, après, j'aime bien, comme je te disais, tu vois, moi, la réalisation, c'est ça qui m'a plu aussi. C'est que ça fait écho à mes trois passions, c'est-à-dire l'écriture, l'image et la musique. J'ai fait aussi pas mal de musique de BO, tu vois, ouais. Pour certains courts-métrages, voilà. Mais oui, j'aime beaucoup tout ça, j'aime beaucoup toucher un peu à tout. Je me vois plus comme un artisan, en fait, tu vois,
ouais.
De star-là, en tout cas, de donner vie à ce que j'ai en tête, en fait.
Okay.
Et justement, j'essaie de construire comme le facteur cheval, mon palais idéal, tu vois, ce truc de pierre après pierre, essayer de construire un truc qui me correspond, qui me fait vibrer, quoi. Et pour ça, bah, voilà, vu que je suis curieux de tout et que j'aime toucher à tout, bah, je passe par la réalisation, par l'écriture, par la musique, par.
Ok. Alors, j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu de tes clips.
Oui.
Parce que quasiment chacun de tes morceaux, et on parlera de la musique après, mais j'ai envie qu'on parle des clips en premier.
Vas-y, je t'en prie.
Chacun de tes morceaux est clippé. Et je voulais savoir, en fait, parce que bon, faire un clip, c'est des sous, c'est du budget, faut connaître les gens qui le font. Comment t'as fait, toi, pour faire tes clips? T'as contacté des boîtes de prod?
Pas du tout, avec la bite et le couteau, j'ai envie de dire.
Ouais.
Mais littéralement, c'est-à-dire que les clips en général me coûtent pas plus de 100 €, tu vois.
D'accord.
Parce que je fais tout. Et souvent, la plupart du temps, c'est des.
C'est toi qui fais tous tes clips alors?
Ouais, c'est moi, ouais. Et la plupart du temps, j'investis dans des accessoires si j'ai besoin, ou ouais. Des trucs comme ça, mais en fait. Bah, c'est moi qui tourne, je suis aidé de ma femme parfois quand je suis à l'image, bah, c'est elle qui tient la caméra. Je lui dis un peu ce que j'aimerais voir à l'écran, tu vois, qui serait pertinent. Et du coup, bah, je lui explique comment tourner. Elle prend la caméra et elle fait l'image et puis elle rajoute un peu des trucs si l'inspiration est là. Donc voilà, après c'est comme les fourmis par exemple, je l'ai fait tout seul pour le coup,
ouais.
Sur fond vert en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai créé des incrustations, donc j'ai pris des images un peu aussi libres de droit, tu vois.
J'allais te demander, est-ce que tu as beaucoup de clips où c'est plein d'inserts d'images qui venaient? Je me suis dit, ouais, tu prends dans des banques d'images.
Ouais, je prends aussi dans des banques d'images, ouais. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des clips comme le clip de James, par exemple, c'est vraiment un clip.
Ouais, c'est filmé, là, ouais, j'ai vu.
C'est filmé, ouais, pur et dur, ouais. Il y a des trucs comme ça. Après je fais le montage. Parce que j'aime bien aussi cette notion de rythme dans le montage, tu vois.
Ouais.
Mêler la musique avec le rythme.
Tu montes avec quel logiciel, juste pour savoir
Avec Premiere Pro.
Ok, ouais.
Mais ouais, après je fais l'étalonnage, etc. Donc,
En lien avec ton ancien métier de réalisateur.
Ouais, après, on ne peut pas dire métier, mais oui, mais mon ancienne expérience de réal, ouais, qui est toujours là et que j'ai toujours envie de... J'ai toujours envie de m'y remettre, de refaire des courts-métrages, en fait. Mais c'est le temps qui manque.
T'as appris où? Parce que dans tes clips, il y a beaucoup d'effets. Des fois, il y a des. Bah, genre sur les fourmis, il y a des inserts de fourmis, il y a des. Enfin, il y a pas mal d'effets visuels. T'as appris quelque part? T'as appris sur le tas?
Bah, j'ai appris. Je faisais partie d'un collectif MJC, tout simplement. Je me suis inscrit à un cours de court-métrage, en fait, c'était en 2015. Et après, bah, j'ai appris déjà des trucs sur la notion de cadrage, tu vois, simplement. Comment on se passe un tournage, un plateau, voilà. J'ai fait un peu le tour des rôles sur un tournage. J'ai été au son, j'ai été derrière la caméra, j'ai été script. Enfin, j'ai appris un peu comme ça. Après, dans ce collectif, on était très, très actifs. Donc, en un an, on a dû faire 17 courts-métrages, je crois, un truc comme
ouais.
Ça.
Oui, c'est beaucoup.
Ouais. Ah ouais, on était quasi tous les deux week-ends, on tournait, quoi.
Ok.
C'était intensif et c'était très formateur. Donc, et après, par la suite, bah, j'ai appris en autodidacte, en fait, en regardant des tutos, en faisant, tu vois, en tournant même des trucs d'essai. Je partais avec ma caméra, je tournais des trucs et puis j'essayais du montage, j'essayais de l'étalonnage. Enfin,
ok, ouais. Voilà,
autodidacte, quoi. Enfin.
Autodidacte. Il y a le clip... Alors, j'ai noté les foules, mais c'est pas le titre complet.
Je veux pas dire... La clameur des foules.
La clameur des foules, pardon.
Je pense que c'est ça.
C'est celui-là.
Ouais.
Il est sorti quand, celui-là?
L'année dernière, je crois. 2023, il me semble.
Ouais, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est de l'IA, ça.
Oui, c'est de l'IA.
Donc, t'es un des premiers à avoir utilisé l'IA pour faire de la vidéo, là.
Ouais, bah écoute, j'ai.
Comment ça t'est venu l'idée?
J'ai eu connaissance de l'IA, comme tout le monde, je
Ouais.
crois. C'était quand.
Ça fait un an, je sais pas, un an et deux, ouais, un an et
Ouais,
demi. Hein.
un truc comme ça, ouais. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Donc, je me suis renseigné en fait sur le sujet et j'ai créé des images via Midjourney,
Ouais.
qui est une application qui permet de créer des images avec l'IA.
Ça marche comment pour créer une image?
C'est par des prompts en fait, c'est-à-dire que tu écris, imagine un personnage au milieu d'une foule qui se sent seul, qui marche, tu vois, tu écris ce que tu veux
Ouais.
voir, tu cliques sur Entrée, tout simplement, et ça te génère une image. Et après, cette image, tu peux la décliner en plusieurs formes, tu peux
Ouais.
la décliner en plusieurs autres images et voir ce qui te correspond mieux. Et après, cette image, tu peux la télécharger et la retravailler.
D'accord, donc c'est ce que tu as fait, quoi. C'est pour ça que des fois on voit un plan, par exemple, comme tu dis, quelqu'un seul au milieu de la foule. Dans ton clip, tu vas voir cette image-là, mais il y a 10 images comme ça qui se modifient, qui se.
C'est ça. Et après, par la suite, donc tu crées ton image de base,
Ouais.
et par la suite, tu passes par une plateforme qui s'appelle Kyber et qui permet d'animer, en tout cas, cette image, tu vois, de donner l'illusion de l'animation de l'image.
D'accord.
Et du coup, après, j'ai pris toutes les images que j'avais générées, je les ai foutues là-dedans pour générer des séquences animées, en fait.
D'accord. Et ça t'a pris combien de temps? C'est long, non?
Oh, ouais, ça m'a pris. Je sais pas en heures combien ça m'a pris. Ça, en tout, ça a dû me prendre 20 heures.
D'accord, ouais.
Et après, une fois que j'avais généré tous ces clips, je les ai montés dans Premiere Pro, j'ai fait mon montage et après j'ai fait l'étalonnage et tout ça.
Ok.
Comme un clip normal, quoi.
Donc super clip, moins de 100 euros, mais un peu de temps et il faut avoir l'idée, quoi.
Avoir l'idée. Et puis oui, après l'IA, ça m'a intéressé dans le sens où c'est très actuel. On en parle beaucoup de l'IA et ça permet de mettre le doigt aussi sur l'évolution des choses. C'est-à-dire que voilà, faut que ça reste un outil. C'est un outil exceptionnel, mais il faut que ça reste un outil. L'IA ne peut pas prendre la place de l'humain.
Ouais.
Et il faut faire attention aux dérives, justement. Et il faut vraiment l'utiliser comme un outil, quoi, simplement, tu vois. Et pas créer un monstre technologique qui puisse nous dépasser. C'est juste, voilà, c'est avoir le contrôle sur cette IA et l'utiliser en tant qu'outil, simplement, quoi.
Ça
Donc,
marche. Ça m'a fait rire de voir ce clip en IA parce que dans ton univers, je me suis dit, ça fait plusieurs personnes que j'interview qui, au niveau de la musique, sont passées au numérique. Toi qui joues sur simulation d'ampli,
ouais.
moi le premier. Et toi, je me suis dit, en te voyant, je sais pas, j'ai eu un pressentiment, je me suis dit, toi, tu prends pas ça, toi, tu restes analo dans ta musique, t'as des amplis, et... tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
Est-ce
ouais.
que j'ai raison?
Oui, t'as raison, ouais.
Et t'as fait un clip en IA quand même, donc t'as quand même un peu cette dualité entre l'avancée technologique et, on va dire, quand je dis analogique, c'est ce côté un peu
Ah,
matière,
mais
tu
je
vois,
vois.
palpable.
Ouais, je vois, mais je suis. C'est pas une dualité. Je pense que c'est vraiment une vivre avec son temps aussi. Tu vois, c'est-à-dire que moi, par exemple, l'EP, un truc qui me tenait à cœur, c'était de le masteriser tout en analogique.
Ouais.
C'est ce qui a été fait d'ailleurs. J'ai envoyé l'EP dans un studio en Allemagne. Et le type qui travaille là-bas, en fait, il a une console Helios. C'est exactement celle qui a été utilisée pour les enregistrements berlinois de Bowie, David Bowie.
Ouais.
Donc c'est que de l'analo pur et après l'EP est passé sur un magnétophone à bande, tu vois.
Ok, donc analo.
Voilà, analo pur.
Ok.
Mais malgré tout, j'aime ce côté dans l'air du temps. C'est-à-dire que voilà, on a des outils fantastiques maintenant qui permettent de faire des choses très intéressantes. Et c'est ça qui me plaît. C'est pas une dualité, c'est une continuité. Je pense c'est prendre le meilleur des deux mondes en fait, tu vois,
Ouais.
et essayer d'en faire un truc qui soit cohérent. Alors, genre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi qui aime tout ce qui est graphique et visuel, tu vois, l'IA c'est aussi une façon de nouvelle de travailler, tu vois. Donc ça m'a permis aussi de dépasser mes limites et de dépasser. J'aime pas rester dans un cadre en fait, dans
Ouais.
tous les cas. J'ai pas envie de me foutre dans une étiquette et de me dire voilà, je ferai que de l'analo pur ou je ferai que de ça ou je ferai que de ça quoi. Donc j'ai envie de prendre un peu le meilleur des deux mondes et voir ce que je peux en faire en fait sorte de cocktail artistique, tu vois.
Un cocktail Molotov qui mélange.
Exactement, ouais. Exactement ça, ouais.
Comme je te disais, je trouve que ça fait très pro dans tout ce que tu produis. T'as une logique, j'ai l'impression, dans ce que tu montres. C'est quoi un peu ta stratégie de développement? Comment tu fais pour te faire connaître? Comment... Tu vois ce que je veux dire? Où t'en es? Tu as commencé ton projet en 2020.
Ouais.
Je sens que tu sais où tu vas. Mais je parle plus dans l'aspect de promotion, de faire connaître ce que tu fais.
Oui, oui, oui. Bah après, promotion, je passe par une plateforme qui s'appelle Groover, qui met en relation les artistes et les labels, producteurs, médias, etc. Donc en fait, à chaque sortie, nouvelle sortie, je contacte des médias, en fait.
Ouais.
Via cette plateforme, donc ça me permet d'avoir des retours déjà, tout simplement, de retours de professionnels, tu vois.
Ouais.
Et ça me permet aussi d'avoir des articles, des passages radio, des playlistages, des tout ça. Par la suite, après, j'essaie de réseauter, en fait, même par les réseaux, par les mails. Je fais beaucoup de mailing,
ouais.
Que ce soit pour du booking de concert ou pour de la promo, quoi.
T'as des gens qui t'aident pour tout ça ou t'es tout seul?
Non, je suis tout seul.
T'es tout seul?
Ouais, ouais. Donc, en plus de tout ce que je fais artistiquement, ouais, je m'occupe aussi de la promo et du lien, quoi, tu vois, du réseautage, ouais. Et tout. Donc, bah, c'est beaucoup de travail, quoi, parce que pour choper une date de concert, j'ai envoyé 15 mails, tu vois.
Ouais. Bon, ça va, c'est un bon
oui, ratio, enfin, après, j'ai pas les stats exactes en tête, tu vois, mais oui, oui, c'est assez chronophage, quand même. C'est
ton travail, ça, de musicien, ou tu as un métier à côté, tu...
Non, j'ai lâché mon job alimentaire pour me consacrer qu'à ça.
Ok, donc tu fais que ça.
Ouais.
Alors, petite question, vu que tu fais que ça, comment tu ressens la différence entre avant, quand tu travaillais, tu faisais de la musique à côté, et maintenant, tu fais que ça? Ça te permet quoi de faire que ça? Tu te sens comment dans ta tête par rapport à ça?
Bah, je me ressens que j'ai tu vois, c'est sauter sans filet, quoi.
Ouais.
Donc c'est grisant, ça fait peur, mais en même temps c'est un choix en âme et conscience, quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'essaye d'être le plus actif dans ce que je fais et le plus sincère dans ce que je fais pour essayer de jouer un maximum, de rencontrer le public, de partager ce que je fais, en fait. Avant j'avais tendance, il y a quelques années en arrière, on me demandait ce que je faisais, à dire bah je fais un peu de musique, tu vois.
Ouais.
D'être un peu en retrait, en fait, de pas forcément croire à l'époque en ce que je faisais, tandis que maintenant j'ai toujours des doutes, hein, ça m'empêche pas, mais je sais où je veux aller, en fait. Je sais ce que je fais, en tout cas, ouais. Ce que je fais me fait vibrer, tu vois. C'est un truc que je fais avec les tripes, avec le cœur, donc c'est, voilà, je vais au bout des choses, quoi. Et là, je suis sur ce chemin-là où je vais au bout de mon rêve, quoi, en fait, simplement.
Parce que tu me disais, t'as 38 ans, là.
Ouais.
Ça a été quoi le déclic qui t'a fait te dire, allez, je fonce, je quitte mon boulot alimentaire et j'essaie de faire que ça?
Eh ben, plus tard, la naissance de mon fils.
Ouais.
C'est-à-dire le voir grandir et je pense que c'est important de tout faire, de travailler très dur pour s'accomplir, en fait. Et j'ai envie, dans ce sens-là, j'ai envie d'être un exemple pour mon fils. Tu vois, ouais. De lui prouver, de lui montrer qu'il faut se battre pour aller, pour réussir, pour s'accomplir, tu vois, pour travailler dur, pour essayer de réaliser ce rêve qu'on a en tête. Et que c'est pas impossible. Même si on se plante, faut essayer. Faut pas avoir de regrets à se dire, putain, si j'avais su. Tu vois, c'est pire que tout, ça. Je pense que quelqu'un qui se réveille à 50, 60 ans en se disant, putain, merde, j'aurais dû essayer.
Ouais.
J'aurais dû au moins essayer. Tu vois. Et ça, c'est pire que tout, je trouve. Et moi, j'ai pas envie d'avoir ce regret du tout.
Donc, tu l'as
fait. J'ai pas envie de me réveiller un jour à 50 ans en me disant, bah voilà, je fais un job que je déteste. J'ai une vie plan-plan, mettre au boulot dodo, et si j'avais su, tu vois.
J'aurais essayé. Donc c'est sans regret pour l'instant.
Ah non, sans regret, c'est dur, c'est pas toujours simple.
Je dis pour l'instant parce que t'es en plein dedans, hein. C'est pas pour...
Ah oui, je suis en plein dedans, oui, je suis en plein dedans, donc... Et puis même si je me plante au bout de 3-4 ans, bah c'est pas grave, tu vois, je me relèverai, je ferai autre chose,
Tu l'auras
toujours
fait.
dans ce truc artistique parce que ça me plaît, mais voilà, je construis mon chemin en fait et j'avance.
Ton objectif, c'est de vivre grâce à l'homme nouveau ou tu t'ouvres potentiellement sur simplement vivre de la musique et aller dans d'autres groupes, des choses comme ça?
Ouais, pas que l'homme nouveau. Après, c'est large, hein, comme je te disais. Moi, je suis curieux de tout, donc voilà, l'écriture, la réalisation, la musique. Enfin, c'est la création me
La
plaît en fait.
création, oui. La
Ouais, au
création.
sens large.
Ça marche. On va parler un peu de musique, parce que tout à l'heure, on a parlé pas mal d'images, et puis on est resté assez large. L'homme nouveau, j'ai vu, c'est toi tout seul, et c'est aussi toi avec trois musiciens.
Avec deux musiciens,
Deux
ouais.
musiciens, enfin trois musiciens, un trio, pardon, je veux dire.
Exactement,
C'est aussi un
ouais.
trio. Comment t'es venu l'idée de créer ce trio? Comment t'as rencontré les musiciens du trio? Pourquoi tu joues aussi tout seul?
Ben, j'ai commencé tout seul en fait. J'ai commencé, comme je te disais, les premiers singles je suis multi-instrumentiste, donc en fait, je posais la batterie, la basse, les grattes, etc. Donc, j'ai commencé tout seul dans mon studio. Après, j'ai croisé la route de Julien Connor, qui est un batteur exceptionnel, qui était pendant longtemps batteur de remplacement, donc principalement aux States. Donc, il a joué avec Ben Harper, il a joué avec
D'accord.
des grands noms, tu vois. Donc, il a une maîtrise de son instrument qui est quand même assez cool. Maintenant, il a son école de batterie, l'école du groove à Pierrelatte. Pour ceux qui sont dans le
Ouais.
coin, je recommande vivement. Et donc, j'ai croisé sa route. On a commencé à travailler mes morceaux tous les deux. Et par la suite, on a croisé la route de Ben Fark, qui est bassiste, un excellent bassiste aussi. Donc, on a commencé tous les trois à poser toutes mes idées. Je maquettais mes chansons à la maison. Je leur envoyais les chansons et puis de leur côté, ils commençaient à bosser et on se voyait régulièrement en répète pour poser tout ça, quoi. Et approfondir les morceaux, c'est-à-dire que moi j'avais des lignes directrices, tu vois, des trucs bah, que je voulais entendre, que j'avais besoin d'entendre sur leur partie. Et après, bah, eux, ils ont aussi à ajouter
Leurs pattes.
une notion de groove, vraiment de groove, tu vois, que j'avais pas forcément. Moi j'étais plus rock, blues pur et eux, ils viennent aussi beaucoup du jazz, du groove, de la funk aussi, tu vois, un peu. Donc, cette notion-là qui est intéressante. Donc, ils ont apporté cette couleur tous les deux. Et du coup, par la suite, on a travaillé un set qui dure à peu près 1 heure, 1 heure 15.
Ouais.
Voilà, avec 16, 17 titres.
D'accord.
Puis, bah, par la suite, on a réfléchi à poser un EP, quoi, qui existe, qui s'appelle Les Foules.
Ok.
Donc, on est rentré en studio en février 2022, je crois. On a enregistré ces 5 titres en 4 jours, quoi.
D'accord. Au niveau, avant de parler de studio, parce que j'aimerais qu'on passe un petit moment sur le studio après,
Ouais.
au niveau du travail en répète, du coup, tu leur proposais, toi, comme tu disais, une grande partie des compositions, entre guillemets, terminées avec les idées. Et après, vous avez bossé ensemble. Vous faisiez comment au niveau de vos répètes? C'était des répètes hebdomadaires, des grosses sessions mensuelles de 10 heures ou plutôt des répètes régulières? C'était
Non,
long,
non,
c'était
c'est.
pas long, ça s'est mis en place rapidement, ça a mis du temps à se mettre en place.
Non, bah, j'ai la chance d'être bien entouré, d'être entouré par vraiment deux musiciens exceptionnels. Donc, on se calait une répète tous les 1 mois et demi, 2 mois, tu vois.
Ouais.
Et on bossait pendant 3 jours, on se voyait 2, 3 jours vraiment avec un travail intensif.
Ouais.
En amont, comme je te disais, je leur envoyais les chansons, donc ils avaient le temps aussi de jeter une oreille et réfléchir un peu à tout ça. Et par la suite, bah, quand on se voit, on pose les bases, on pose les fondations et on essaye de faire sonner autant que faire se peut les chansons, quoi.
Ouais.
Donc c'est des grosses sessions de travail, ouais.
Des grosses sessions de boulot, ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Vous avez bossé un peu l'aspect scénique, le jeu de scène, tout ça, ou pas encore?
Un petit peu, on pose de temps en temps des caméras, on se met en condition live, puis on essaie de voir ce que ça donne. Donc après. Après, oui, on se pose des caméras dans la pièce et puis on voit ce que ça donne. On se met en condition concert et puis on fait le set vraiment en mode concert et puis on check ce qui va, ce qui ne va pas, tout ça. Donc,
Et après, qui c'est qui est force de proposition? Parce que du coup, ils ont l'air d'avoir pas mal d'expérience scéniquement, comme tu disais.
ouais.
Ils proposent des choses.
Ah oui, il propose des choses. Ouais. Il propose des choses sur les structures aussi. Il propose pas mal de trucs, tu vois, sur l'évolution des chansons, tu vois.
Ouais.
Moi, j'ai l'aspect aussi, quand j'en vois certaines chansons, elles sont très fraîches.
Ouais.
Elles n'ont pas encore eu le temps de mûrir. Donc, justement, ça permet de les faire mûrir en trio, tu vois. Et de les voir différemment aussi. Parce que c'est vrai qu'en plus, des fois, quand j'en vois des chansons qui ont déjà été réfléchies, des fois, il y a beaucoup d'arrangements. Tu sais, j'aime bien aussi les arrangements de cordes, les arrangements, tout ça. Donc après, passer d'un arrangement corde et d'un arrangement trio, c'est un autre travail. Donc
ouais.
faut trancher un peu dans l'art, il faut faire des concessions. Donc ça permet aussi d'aller plus à l'essentiel, tu vois, quand on est en trio. Et eux, ils m'apportent aussi ce côté tranché dans l'art et ce côté...
Ouais. Oui, parce que ça ne doit pas être évident, parce que sur les morceaux qui sont produits, les guitares, elles sont doublées. Des fois, à gauche, il y a une petite guitare qui suit la voix, qui fait une petite mélodie. Après, il y a un clavier qui arrive sur la droite.
C'est ça.
C'est des arrangements qui remplissent les morceaux, quoi, qui donnent une couleur aux morceaux. Et c'est vrai que passer en trio, ça ne doit pas être toujours facile.
Ah bah surtout des morceaux comme Au commencement, c'est un des premiers singles que j'ai sorti, où là vraiment il y a un arrangement orchestral, tu vois, il y a des trucs vraiment c'est assez fat, quoi. Et pour le coup, ramener ça en trio, ça a été un gros gros taf, quoi. Mais justement, on a favorisé le côté groove, le côté plus basique, entre guillemets, dans le sens pas péjoratif, hein, dans le sens vraiment retranché, la base, ouais,
la
voilà.
La base, ouais.
Ouais, ouais. Donc c'est intéressant et ça permet de faire évoluer les chansons et d'avoir un regard différent sur chaque chanson, donc c'est cool.
Ok, et quand tu passes tout seul, du coup, parce que tu fais des dates tout seul, donc c'est aussi un autre travail de réarrangement.
Parce que, là, je retranche encore plus dans l'art, ouais.
Parce que t'es tout seul, mais t'es pas en guitare chant, t'as aussi une grosse caisse.
Exactement, je suis en one man band, ouais. J'ai une grosse caisse, tambourin au pied et guitare chant, quoi. Donc là, c'est encore un autre travail d'épurer le titre encore plus et privilégier le côté intimiste et proche du public aussi, tu vois. Donc le fait d'être en solo, ça permet aussi d'avoir ce côté intimiste et de retrancher dans l'art, en fait, et de voir les chansons d'un côté plus folk, rock, et qui me plaît aussi, finalement. Ça a été un frein pendant des années, en fait. J'avais peur, simplement, d'être seul en scène. Et au fur et à mesure du temps, j'aime prendre des risques, donc je me suis lancé, quoi. Donc j'ai fait ma première date en solo. J'ai flippé de ouf.
Bah ouais, parce que quand tu fais grosse caisse, tambourin, guitare, chant, ça doit pas être évident au niveau des méninges, là, pour...
ouais, après, ça va. Enfin, j'ai fait pas mal de batterie pendant pas mal d'années, tu vois. Donc, j'ai ce côté aussi dissocié.
Ouais.
Oui, c'est un autre travail. C'est un autre exercice et comme je te disais, qui fait flipper au début, mais finalement, c'est un... Voilà, il n'y a personne, en fait, il n'y a pas de filet de sécurité. Je peux me raccrocher à personne à part moi, quoi. Donc,
ouais.
Donc c'est intéressant aussi. C'est un saut dans le grand bain. Donc,
Et qu'est-ce qui te fait décider de jouer seul ou à trois? C'est une histoire de budget, c'est une histoire de lieu, de taille, de taille du lieu?
C'est un peu tout, ouais. Malheureusement, c'est plus simple à vendre un projet en solo qu'en trio. Déjà, et puis c'est plus simple à tourner en trio, et puis ça me permet aussi de me faire à la scène, étant donné que le projet a été créé pendant le Covid, tu vois. Donc pendant un an et demi, deux ans, on pouvait pas jouer nulle part, en fait. Finalement, j'ai commencé les concerts par rapport à ce projet un peu tard, quoi.
Ouais.
Ça fait vraiment qu'un an et demi, deux ans que je commence seulement à tourner. Donc voilà, ça me permet aussi d'aller à la rencontre du public par rapport à ce projet. Et le solo, c'est vrai que ça me permet d'aller plus vite, entre guillemets, en tout cas c'est plus simple, quoi.
Ouais.
C'est plus simple pour plein de raisons, mais c'est moins cher, ça
me
manque, hein, le trio me manque énormément.
C'est un peu un problème en ce moment quand même de pas mal d'artistes, j'ai l'impression, c'est d'arriver à vendre des groupes. Les budgets là sont quand même bien plus serrés qu'il y a quelques années en arrière, et
c'est ça,
il y a pas le choix, hein.
Tu vois, en fait, quand tu veux faire une date en trio, vendre un projet en trio, souvent on te demande d'avoir déjà tourné pas mal, d'avoir fait pas mal de concerts et bah, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi, parce que
on recherche quelqu'un avec de l'expérience.
C'est ça, c'est le principe de quand tu postules à un emploi et qu'on te demande d'avoir de l'expérience et que justement t'es là pour en avoir, donc donc voilà, c'est le même principe, quoi. Donc c'est vrai qu'en solo, c'est plus simple de trouver des dates parce que tu peux jouer dans des petits bars, tu peux jouer dans des cafés-concerts qui sont peut-être moins regardants ou des scènes ouvertes ou des trucs comme ça. Et du coup, bah, ça te fait la main aussi, tu vois.
Ouais.
Donc c'est ça qui est intéressant, quoi.
Géographiquement, tu restes vers chez toi pour l'instant ou tu te déplaces partout en France?
Pour l'instant, ouais, je suis plus en région Rhône-Alpes. Après, là, je vais faire une date en Suisse le 28 juin prochain. Donc je cherche d'autres lieux pour faire une petite tournée, tu vois.
Quitte à y aller, autant rester.
Ouais, bah c'est ça. Donc après, ouais, là j'ai joué à Annecy. Là, je joue à Puygros en Savoie vendredi, là. Après, je vais jouer à Paris. Par contre, ouais, le 6 et 7 avril, le 7 avril, je joue au Club Les Disquaires à Paris. Donc ça va être une jolie date. C'est un lieu qui a l'air cool. Et puis après, j'ai plus les dates, les lieux forcément en tête. Mais ouais, j'ai une quinzaine de dates prévues jusqu'à septembre.
Ok, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Et du coup, au fur et à mesure que tu fais tes dates, parce que vu que c'est un projet qui est assez naissant, chaque date doit te faire remettre en question certaines choses, te faire évoluer le spectacle. Est-ce que tu as des exemples de choses où tu t'es dit, ah ben mince, ça marche pas, il faut que je retravaille différemment?
Ouais, ça dépend des lieux où je joue, ça dépend de l'ambiance, ça dépend du public. Après, j'essaye de m'adapter pour que le message soit passé, tu vois, puisse passer. Sans me dire de jouer à un jeu, quoi, mais essayer d'être à l'écoute du public qui est présent devant moi, en fait. Après, il y a certaines chansons que sur le set, je me dis sur l'instant, bah non, je vais pas les faire, en fait, tu vois. Soit parce que c'est pas l'ambiance, soit parce que c'est pas. Voilà, donc j'ai une setlist de 23 chansons à peu près.
Ouais.
Et sur cette liste, des fois, il y en a trois que je fais pas, ou tu vois, parce que je me dis que c'est pas pertinent sur l'instant, en fait.
Ouais, t'as de la marge.
Ouais, j'ai de la marge, ouais. Mais après, oui, ça me permet de voir, des fois, voir des instants où j'essaie de, sur certaines chansons, où j'essaie de choper le public, tu vois, de le faire interagir et tout. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc, tu vois, donc c'est le jeu aussi, mais...
Des fois, tu fais un truc un soir, tu dis, ah, c'est génial, je vais le refaire demain, puis le lendemain, tu réessayes.
Et puis, ça marche pas. C'est ça, parce que du coup, c'est pas le même public, c'est pas la même vibe, c'est pas la même ambiance. Et il y a des trucs où, justement, quand j'essaie de choper le public sur une chanson, ça marche direct, tu vois. Donc bah là, tu te sens bien, et puis le lendemain, tu essayes, et puis ça marche pas. Donc,
tu te sens mal. Ouais,
ben, c'est pas grave, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave. C'était pas le bon timing, c'était pas le bon truc, donc ça arrive, quoi.
Ça arrive.
Mais c'est formateur.
Ouais, c'est formateur.
Dans tous les cas, c'est formateur, tu vois.
Il y a besoin. C'est
bien. Ouais, bah oui. Ouais.
Et on va parler un petit peu album. Enfin, album, ouais. EP, que t'es passé en studio sur ton YouTube, il y a un petit making-of de l'EP qui est vachement chouette, en fait. J'ai bien aimé parce que vous expliquez bien comment ça se passe une session de studio. Et j'aimerais bien que tu t'en reparles un petit peu dans Backline Interview. Donc, comment t'as choisi le studio où t'es allé, comment ça s'est passé sur place, comment vous avez préparé les enregistrements, comment vous avez mixé ça. Je veux tout savoir.
Ok. Eh ben, le studio, je l'ai choisi par rapport à un type que je suivais sur Facebook qui s'appelle Ben Mass, qui est devenu un pote maintenant. Voilà, j'aimais bien sa façon de voir les choses. Il est dingue de matériel, de son et de stud et moi aussi. Donc voilà, on a échangé sur Messenger et puis il m'a dit qu'il travaillait avec un autre pote à lui qui s'appelle Laurent Loiseau, qui, pour le coup, lui, a créé son studio à Saint-André-le-Gaz, qui s'appelle Organic Studio. Et de fil en aiguille, en fait, je lui ai dit que je souhaitais enregistrer un EP, faire des prises de son en stud. Donc, il m'a dit, bah écoute, si tu veux, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble avec Laurent. Donc, c'est ce qui s'est fait. On a pris rendez-vous pour le stud. Donc, j'ai pris 4 jours de studio. On a posé les pistes guitare, basse, batterie en live. Ouais. Donc moi, j'ai fait les guitares en témoin, tu vois, en direct. Et après, j'ai refait toutes les guitares, en fait. Certaines guitares, je les ai triplées, quadruplées pour avoir une amplitude de son, pour avoir un effet un peu relief, un peu massif.
Donc, si j'ai bien compris, vous avez enregistré tous ensemble, guitare, basse, batterie. Toi, ta guitare, elle servait que de témoin, et après, vous l'avez enlevée, tu as réenregistré des guitares par-dessus. Par-dessus la batterie et la basse, ok.
C'est ça, exactement. Et la basse de Ben a été réampée, c'est-à-dire qu'il l'a enregistré via un boîtier direct, DI.
Pour nos auditeurs, on a expliqué à la dernière émission ce que c'était un boîtier direct. Donc vous allez écouter l'épisode d'avant si vous ne savez pas ce que c'est.
Carrément. Et du coup, il était, on a enregistré la basse en direct, qui a été réampée, c'est-à-dire qu'on a le son de son enregistrement l'a repassé dans un ampli basse.
Ouais.
Qu'on a réenregistré avec 6 ou 7 micros, tu vois.
Okay.
Pour avoir vraiment un son de basse et un son avec un cachet particulier. Et moi, je suis passé sur un gros Marshall à lampe, donc avec un son très chaud, très vintage. Donc c'était super cool. Par la suite, j'ai envoyé.
Vous avez fait des choix d'ampli au studio ? Ou c'était ton ampli et...
Moi, j'avais un Vox qui était un peu à bout de souffle, qui m'a lâché d'ailleurs maintenant. donc le mieux était de prendre l'ampli du studio, un Marshall Origin 50, avec tête à lampe et sur un gros baffle, qu'on voit bien, quoi.
Ouais, du coup, toutes les guitares ont été passées là-dedans.
Ouais, toutes mes grattes ont été passées là-dedans, ouais. Okay. Ouais. Après, j'ai un pédalier avec pas mal d'effets, avec des overdrives et pas mal de bons sons. Donc, j'ai utilisé pas mal aussi mon pédalier. Et puis, par la suite, j'ai fait les chants, les chœurs, etc. Et après, donc, j'ai tout envoyé, toutes les pistes.
Pardon, je te coupe. Tout ça,
vas-y.
Tout ça, tu l'avais maquetté avant le studio déjà.
Ouais, j'ai maquetté une première fois tout seul. Après, on a maquetté en trio.
Ouais.
Tu vois, on s'est fait une pré-prod en trio sur 5 jours. On est parti, on s'est vu 5 jours. On a bossé les tempos, on a bossé les structures, on a bossé les arrangements, on a bossé tout ça. Donc voilà, on a enregistré la session pour avoir une trace et pour avoir exactement ce qu'on voulait, quoi. Et par la suite, on s'est appuyé sur la pré-prod, quoi.
D'accord.
Donc on avait déjà toutes les idées en place. Donc on est arrivé en studio, on a posé au propre ce qu'on avait déjà travaillé auparavant. Donc ça, je recommande à tous les musiciens de faire ça, d'ailleurs. Tu vois, tu gagnes du temps en studio et tu...
C'est un gain de temps, ouais.
Bah, c'est ça, tu te perds pas, tu te dis pas le jour J au studio, merde, c'est quoi déjà ce qu'il faut que je fasse, tu vois. Là, tu perds du temps pour rien, donc c'est con, quoi. Donc voilà, une fois que toutes les prises étaient faites, je les ai envoyées à Citarane Production à Paris. Donc c'est un studio de mix, ça a été mixé par Alec Taora, pareil un ingé son hyper cool, hyper efficace, qui m'a fait tous les mixages des 5 titres. Et après par la suite j'ai envoyé...
C'était une volonté de ta part de pas faire mixer par ceux qui avaient enregistré ?
Ouais, parce que Alec Taora a mixé mes premiers singles. Donc, en fait, il m'a vu évoluer et puis on avait ce truc de confiance aussi, tu vois. Donc, l'EP, alors c'est pas un album, mais l'EP, pour moi, c'était un aboutissement déjà de cette première phase de travail. Donc, je voulais que ce soit lui, en fait, qui le fasse, simplement. Pour aller au bout de cette idée-là de confiance aussi, tu vois. De ça, donc voilà, il me semblait logique et normal que ce soit lui qui le fasse, en fait. Donc,
ça se comprend.
Il a fait un taf vraiment, vraiment bien. Et puis après, bah, l'EP mixé, je l'ai envoyé au master dans un studio en Allemagne, ce que j'expliquais tout à l'heure.
Ouais.
Tout analogique. C'est Clemens Schleiwies, j'ai à dire. Ouais, désolé si j'écorche, mais voilà. Qui a masterisé, sur la console Helios et sur les Manitos à bande.
Ok, tout ça, c'est un certain coût. Je vais pas te demander de dire combien ça t'a coûté, mais comment t'as financé tout ça ?
J'ai financé tout ça en faisant beaucoup d'heures sup dans mon ancien job alimentaire.
Ouais.
Voilà, j'ai eu la chance aussi d'être un petit peu aidé par mes familles. Donc voilà, mais principalement, c'est de l'autoprod pur et c'est moi qui ai financé toutes les sessions studio, tout ça, quoi. Donc,
ok.
Donc, ouais, sacré gros coût financier, ouais.
Ça te dérange de dire à peu près combien ça t'a coûté ou
Non, pas du tout. Ça m'a coûté à peu près 3000 balles.
Ok, ouais.
Entre 3000 et 3005, je parle juste de la réalisation de l'EP. Après, je compte pas tout ce qui est promo, je compte pas tout ce qui est...
Voilà. Entre le moment où t'es rentré en studio et le moment où t'as eu tes fichiers Wave prêts à être mis sur les plateformes, ça t'a coûté 3500...
À peu près, ouais.
C'était à peu près le coût que, si je dis pas de bêtises, je sais plus s'il me l'avait dit en off ou en vrai, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. La première personne que j'avais interviewée, pareil, qui avait fait un EP en studio de 5 titres, c'était à peu près ces ordres de grandeur-là.
Ouais, ouais. C'est à peu près les tarots, ouais, de toute façon. Voilà.
C'est vrai. Ouais. Si jamais c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment?
Je sais pas, non, parce que je regrette rien, en fait. J'ai pas. Enfin. Je pense que j'aurais peut-être plus été à l'écoute de ce que m'ont dit les gars aussi, tu vois, mes musiciens, sur certains arrangements, sur. Voilà, après non, j'ai pas forcément de regrets. C'est très bien comme ça s'est passé, dans le sens où voilà, ça a été formateur dans tous les cas, et justement ça a été stoppé, ça a été la concrétisation d'un premier truc, tu vois. Et je pense que c'est important d'aller au bout des choses et de se dire bon bah là c'est terminé, tu vois.
Ouais.
J'ai fini ça. je peux tourner une page, je peux en écrire une autre et.
Ben ça tombe bien, ce que j'allais te dire, c'est quoi la prochaine page maintenant, du coup, là? C'est quoi le... Tu vas travailler quoi là, dans les prochains mois?
Et ben là, je suis retourné en studio mi-février et je suis retourné en studio aussi mi-mars là, pour préparer de nouveaux singles. Donc là, pour le coup, il y a deux singles qui vont arriver. Donc le premier, c'est... pour le coup, je l'ai enregistré en tout seul, parce que j'avais en studio, parce que j'avais besoin aussi de revenir à ça, en fait, un peu ce côté multi-instrumentiste et tout, qui me plaît, en fait. Si tout va bien, il va sortir courant juin. Donc pareil, je vais le clipper sans doute. Et puis là, mi-mars, j'ai fait sur mes prochains singles, un featuring avec un groupe qui s'appelle The White Rattlesnake.
Ouais.
Voilà, c'est des potes avec qui je jouais dans Six Pieds sur Terre à l'époque. Donc c'est des vrais potes, des frangins de musique, quoi. Et du coup, je cherchais pour single un son blues, tu vois, avec de la slide, guitare slide et tout ça. Et eux, ils font du heavy blues. Donc du coup, j'ai pensé direct à eux. Et j'aurais proposé de m'accompagner en studio, proposer ce titre. Qu'ils ont accepté avec joie, et ça a été ça a été un super bon moment de retrouvailles musicales aussi, et je pense que ça transparaît dans l'enregistrement. Ouais. Donc
on a hâte.
Ouais, bah écoute, moi aussi j'ai hâte. Là c'est en phase, là on va se faire le mix avec Laurent Loiseau, justement.
Ouais.
Le premier single là, je l'ai fait avec Ben Mass, que je te dis, dont je parlais tout à l'heure, et là le deuxième avec Laurent Loiseau. Donc on va travailler le mixage courant avril, je pense. Donc,
okay.
Voilà.
Pour le mixage, tu le laisses faire ou tu vas avec lui?
Je le laisse faire. Là, il doit me faire une première version courant avril. Et puis après, il m'a dit, si tu veux, on se voit un après-midi pour qu'on bosse ça tous les deux, tu vois. Donc on va se le faire tous les deux, quoi.
Ça marche. Et aspect scénique, du coup, dans Evolution, tu restes là où t'en es avec tes trois musiciens, ou vous avez prévu de travailler des choses spécifiques, comme par exemple des lumières, des jeux de scène, des choses comme ça?
J'aimerais bien choper une résidence pour le trio, ouais. Ce serait bien pour qu'on puisse aller un peu plus loin sur le jeu scénique. Après, voilà, j'ai surtout besoin et envie de reprendre les lives en trio, surtout.
Ouais.
Parce que ça me manque, c'est une autre approche, tu vois. Là, je suis principalement solo pour l'instant, mais c'est le trio me manque aussi, parce que ça amène une autre ampleur. Donc, et puis voilà, j'aime bien jouer avec les gars. Donc,
t'as pas mal d'éléments de démarchage en plus à trois, j'ai vu. Vous avez le live là, Ticket to Jam là, que vous avez fait.
Ouais, exactement.
Sur les réseaux. Enfin, il y a de la matière pour démarcher.
Ah bah, il y a de la matière, mais c'est vrai que plus le projet. L'entité, l'homme nouveau aura la visibilité, et plus on sera amené à faire du trio, quoi.
Ouais.
parce que du coup les programmateurs souvent regardent aussi si tu tournes pour te programmer, et c'est sûr que c'est aussi pour ça que je favorise aussi le solo, pour qu'il y ait continuellement de l'actu l'homme nouveau, ouais. Tu vois, et que les programmateurs se rendent compte que ok, bah le projet il tourne, donc peut-être potentiellement programmer dans des trucs un peu plus gros, genre festival ou voilà. Ouais.
T'es dans une démarche d'être intermittent du spectacle ou pas du tout?
Pas forcément. Non. Pas forcément, j'aimerais, mais c'est pour avoir statut, pour l'instant c'est compliqué, je fais pas assez de dates, je fais pas assez de tout ça, donc à côté j'ai envie de développer aussi, de, tu vois, donner des cours, donner des apprendre aussi la composition, l'écriture de musique, les arrangements, j'aime bien ça aussi. Donc.
T'as plusieurs idées de développement
Ouais, c'est ça.
Sur le pied, quoi. Okay.
C'est ça, ouais.
Bon, bah, c'est super, moi j'ai abordé tous les points que je voulais aborder avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais parler, qu'on n'a pas pu parler?
Pas forcément, après c'était assez complet, c'était cool. Merci de m'avoir proposé cette interview d'ailleurs, je te remercie.
C'était un plaisir, ouais. Parce que j'ai beaucoup aimé ta musique, j'aime bien ce genre de rock moi, et on en fait, c'est plus, il cool. n'y en a plus tant aujourd'hui. Et on sent qu'il y a un revival un petit peu, et du coup je trouve que ça se passe bien.
C'est ce que j'allais dire, ouais, je trouve qu'il y a quand même... Il y a quand même un truc qui se passe, un changement de tendance qui arrive, quoi. Il y a beaucoup de trucs de chansons à texte, de chansons rock qui reviennent, tu vois. Ouais. Et je pense que le format chanson classique c'est un peu perdu pendant des années et revient, et ouais. Manque aussi aux gens, tu vois.
Ouais, c'est des cycles, hein. De toute façon, les années 80 sont venues, elles sont reparties, les années 90 reviennent, elles repartent, donc on va retourner dans les années 2000 qui...
C'est ça. Et puis c'est vrai que je pense qu'il y a ce côté, voilà, on vit une époque qui est quand même pas simple, tu vois. Donc je pense que le public a besoin de réconfort aussi, tu vois, a besoin de textes, a besoin d'idées, pas forcément nouvelles, parce que tout a été fait et dit, mais une façon nouvelle de le dire en tout cas.
Ouais.
Moi dans mes chansons, je parle beaucoup de liberté, de connaissance de soi, tu vois, c'est d'amour, de tout ça, c'est des sujets qui me parlent et qui me tiennent à cœur en fait. Alors maintenant, qu'on parle d'amour, il y a toujours ce côté un peu péjoratif de fleurs bleues et tout, mais putain, malgré tout, c'est ça qui nous manque, ouais. En fait. C'est ça qui... On est tous à la recherche de ça, finalement. Tu vois, dans tous nos choix de vie, je pense qu'on est tous à la recherche de ça, de l'acceptation des autres, de soi, en fait. Et surtout dans cette époque où l'identité, où l'humain se perd un peu, en fait.
C'est vrai.
Mais je crois qu'on a besoin de ce retour un peu aux sources et de se raccrocher à des valeurs, à ce qui fait sens, en fait.
Ouais, c'est vrai. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais je suis d'accord avec toi.
D'où le truc de chanson à texte, alors pas forcément à texte. En tout cas, de trucs qui font sens, quoi, qui ont du sens. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire humblement, tu vois. Je ne suis pas un Brel, je ne suis pas un Gainsbourg, je ne suis pas un tout ça, mais c'est des enseignants pour moi, ces gens-là, et ça a toujours été, en fait. Donc voilà, essayer de dire des trucs, essayer de sortir un peu les gens aussi de leur quotidien, de leur routine, tu vois. C'est important.
Puis les sortir peut-être un peu de leur zone de confort aussi.
Aussi. Comme moi, je sors de ma zone de confort constamment, j'essaye, tu vois, ouais. De prendre des risques, encore une fois, à contrôler, mais... J'essaye de prendre des risques dans ce que je fais, dans ce que je dis aussi. Et justement, peut-être à contre-courant sur des trucs, mais de rester authentique, quoi.
D'assumer, quoi.
Ouais, d'assumer pleinement, bah oui. Faut assumer ses conneries, faut assumer ce qu'on dit, ce qu'on fait. Dans tous les cas, ses choix, faut les assumer, donc...
En fin d'interview, je demande toujours à l'interviewé de donner un conseil aux autres musiciens. Bon, on vient un peu de le faire, mais je leur pose quand même la question. Si jamais tu avais un conseil à donner... aux autres musiciens, tu dirais quoi?
De voir grand en gardant l'humilité et d'y aller, de foncer en fait, de pas se freiner par des peurs, de même si la peur est là, mais il faut la dépasser, la peur. Et sortir de sa zone de confort, ne pas rester dans des cases, prendre des risques artistiques. Essayer d'approfondir notre art, parce que je pense que c'est le but, en fait, de donner du relief et du sens à ce qu'on fait, en fait. Et surtout d'y aller, vraiment, de foncer, quoi. Faut foncer, vraiment. Faut rien s'interdire. Faut être à l'écoute de soi, des autres, et faut rien s'interdire, quoi.
Faut foncer.
Faut foncer, ouais.
Et bah, arrêtez d'écouter l'interview, prenez votre guitare, et foncez.
Ben, c'est ça. Restez libre et vivant surtout. Ouais.
Ça marche. Ben, je te remercie. Salut à tous.
Merci à toi.
Salut. Ouais.
Salut à tous. Ciao.